Bonsoir, comment allez-vous ? Demain, ce sera l'anniversaire de la naissance d'Alfred Nobel, puisqu'il est né à Stockholm le 21 octobre 1833. Son père, Emmanuel Nobel, était déjà un inventeur dans le domaine des explosifs. La famille déménage à Saint-Pétersbourg quand le petit Alfred a 9 ans. Il parle alors suédois chez lui, mais russe avec ses précepteurs, dont Nikolaï Zidine qui l'initie à la chimie. La chimie et les langues sont ses points forts. Il vivra en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et en France. C'est d'ailleurs à Paris, chez le chimiste Théophile Pelouze, qu'Alfred, 17 ans, entend parler pour la première fois de la découverte d'un Italien, la nitroglycérine. Alfred Nobel est passionné par cette trouvaille. Il travaille pour mettre au point un procédé permettant de produire la fameuse nitroglycérine à échelle industrielle. Il y arrive, mais le produit est encore très dangereux. Rappelez-vous le film de Clouseau, Le salaire de la peur. D'ailleurs, une terrible explosion dans l'usine Nobel entraîne la mort de 4 personnes, dont le propre frère d'Alfred Nobel. Alfred poursuit ses expérimentations et finit par trouver un mélange plus maniable, la dynamite. Alfred Nobel déposera en tout 350 brevets, il accumulera une fortune colossale. L'industriel aimait la poésie, il échangeait par lettres avec Victor Hugo, il pensait que la dynamite mettrait fin aux guerres. Il était amoureux d'une pacifiste qui ne l'aimait pas en retour. Est-ce parce que la presse l'a traité de marchand de mort qu'Alfred Nobel a légué presque toute son immense fortune pour récompenser les bienfaiteurs de l'humanité ? Lundi, Estelle Duflo a obtenu le prix Nobel d'économie. Nous l'aimons beaucoup au petit bateau. Elle était venue nous voir en 2012.
Bonjour, je m'appelle Philemon, j'ai 7 ans. Et je voudrais savoir pourquoi les riches ne donnent pas un peu d'argent aux pauvres. Voilà.
Bonsoir Philemon. Nous avons proposé ta question à quelqu'un qui travaille sur justement la lutte contre la pauvreté. Vous êtes Esther Duflo, professeure d'économie au MIT aux États-Unis. Alors Philemon demande tout simplement pourquoi les riches ne donnent pas un peu d'argent aux pauvres.
Un philosophe américain, Peter Singer, pose exactement la même question que Philemon. En nous racontant une petite histoire, vous êtes dans la forêt, vous voyez un étang, et dans cet étang, un petit garçon, peut-être de l'âge de Philemon, est en train de se noyer. Et vous avez un costume très cher. Et il nous demande, est-ce que vous hésiteriez à aller dans l'eau pour aller sauver cet enfant ?
Évidemment non.
Évidemment non. C'est la réponse que intuitivement chaque personne se donne à elle-même. Et il nous dit, mais alors, ce n'est pas du tout cohérent de ne pas donner de l'argent aux plus pauvres, dont ça pourrait sauver les vies. Vous pourriez donner l'équivalent de votre costume à un enfant ou plusieurs enfants qui ont besoin d'être vaccinés. Et pourtant, on ne le fait pas. Et la réponse qu'il donne, c'est que les pauvres sont souvent loin de nous. Nous ne sommes pas tous les jours confrontés à leurs problèmes, à leur misère, donc nous les oublions. La familiarité est différente de celle d'un enfant qui est immédiatement près de nous en train de se noyer. Mais pour lui, il n'y a pas de différence morale entre les deux questions. Et donc, nous serions responsables moralement de donner beaucoup plus que nous le faisons vis-à-vis des plus pauvres.
On se sent moins concerné parce qu'on peut ne pas le voir, l'enfant qui n'a pas faim, tandis que l'enfant qui se noie, on le voit.
Exactement. L'enfant qui a faim est à l'autre bout du monde, on peut l'ignorer. On peut aussi se donner des excuses en se disant « oui, il y en a tellement, même si j'aide un seul enfant, ça fera une différence que pour cet enfant et les millions d'autres, je ne sais pas bien quoi faire pour eux, donc pourquoi même commencer ?» puisque de toute façon, je ne peux pas terminer. L'immensité du problème, parfois, nous fait peur. Une expérience intéressante qui a eu lieu dans une université aux États-Unis, des psychologues vont vers des étudiants qui sont en train de prendre leur déjeuner et leur demandent de donner un petit peu d'argent pour les pauvres via une organisation non gouvernementale Save the Children. Et l'a fait de deux manières. Pour certaines personnes, leur montrant la photo d'une petite fille de 7 ou 8 ans. Rokia, en disant « cette petite fille est du Mali, elle a besoin d'argent pour aller à l'école, pour se nourrir, etc. » Dans l'autre cas, en montrant des statistiques, des nombres, etc. sur le nombre de gens qui risquent la famine en Zambie, au Mali, dans d'autres pays africains. Ce qu'on voit, c'est que les étudiants sont naturellement, spontanément, beaucoup plus disposés à donner de l'argent à la petite Rokia qu'à tous ceux qui souffrent de famine dans divers pays du monde. Et ça, c'est à cause du deuxième phénomène, c'est-à-dire la peur de ne toucher qu'un tout petit bout du problème. Si on a l'impression que ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan, on a une tendance à se décourager.
C'est vider la mer à la cuillère que de vouloir aider les pauvres, c'est l'impression qu'ont la plupart d'entre eux.
Mais c'est une impression, c'est pas vrai en réalité. Effectivement, si chaque personne prenait une cuillère, on arriverait
à vider, la mer.
Vider cette mer par particulier.
Esther Duflo, donc, avec son mari Bernerji Abhijit, a reçu le prix Nobel d'économie. Ils ont également écrit « Repenser la pauvreté » édité au Seuil. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants nous posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 7 ans 3 quarts et je voudrais savoir pourquoi on rapetisse quand on vieillit.
Pourquoi on rapetisse quand on vieillit, vous demande Margot. Jean-François Toussaint, vous êtes professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes. Je vais me tenir droite pour vous écouter.
Eh bien Margot, toi tu vas grandir, effectivement, encore pour au moins 10 ans. Mais lorsqu'on vieillit, tous nos organes se dégradent progressivement. Soit parce qu'ils accumulent des petits défauts, au départ c'est insignifiant, mais au fur et à mesure, ça concerne la majorité des cellules. Soit qu'ils n'arrivent plus à remplacer des pièces abîmées dans les membranes, dans les protéines, dans les gènes au niveau de l'ADN. Alors dans l'os, ça se manifeste par une fragilisation progressive de l'architecture osseuse, ce qu'on appelle la trame osseuse. L'os, c'est comme un tissu finalement, un tissu assez solide, mais pas tant que ça. Et cette densité va devenir plus faible avec le temps. La résistance de l'os va donc diminuer. Et du coup, le risque de fracture, lui, augmente parallèlement. Un choc minime, dont on se remet immédiatement quand on a 7 ans 3 quarts, tombé sur ses fesses par exemple, peut entraîner une fracture des vertèbres quand on a 80 ans. Et alors celle-ci réduira d'un ou deux centimètres la hauteur de cette vertèbre. Et comme on opère très rarement une vertèbre qui se tasse, quand il n'y a pas de complications, eh bien cette réduction de hauteur entraînera mécaniquement une diminution de la taille de la colonne vertébrale et donc une diminution de la taille de la personne. Il y a un autre mécanisme qui est la dégradation progressive des cartilages entre chaque vertèbre. Comme on en a 24, ça fait beaucoup d'endroits qui peuvent diminuer. Et là encore, on va perdre quelques centimètres au fur et à mesure de cette période de vieillissement. Et c'est pourquoi il faut être très attentif au risque de chute chez les personnes âgées pour leur éviter toutes ces fractures possibles et les douleurs qui vont avec.
Un os, en argot, c'est un problème. Rappelez-vous la réplique de la grande vadrouille. Il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est la kélos.
Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Oui, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, bah c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde, mais ouais, malgré les apparences, ville bleue sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, ville bleue sous le beige. Malgré les avalanches. Les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, ville bleue sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, ville bleue sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige.
c'est là. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi.
Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché.
Malgré les avalanches, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige.
C'était Batlik. Batlik qui a joué dans les bars parisiens au début des années 2000 en s'accompagnant à la guitare. Et puis après, il s'est autoproduit. Et maintenant, tout le monde se l'arrache. D'ailleurs, il est sur notre playlist.
Les petits bateaux sur France Inter.
Le numéro de téléphone de notre répondeur est le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Talia et je voudrais savoir comment les hommes préhistoriques ont trouvé de la peinture. J'ai 6 ans.
Bonsoir Talia. Carole Fritz, vous êtes archéologue, spécialiste de l'art préhistorique. Vous venez de diriger cet énorme ouvrage et magnifique, L'art de la préhistoire, édité chez Citadel et Masno. Il y a d'ailleurs sur la couverture de ce beau livre une grotte ornée, une peinture. Alors où l'ont-ils trouvé, demande Talia.
Alors Talia, ils n'ont pas trouvé la peinture. Comme toi, tu peux trouver la peinture dans des tubes ou dans des petits godets. En fait, ils ont trouvé des pierres qui laissaient des traces rouges ou noires. Et ça, ça remonte à très loin. Bien avant les grottes où on trouve des dessins dedans, les hommes se sont intéressés justement à ce qu'on appelle nous des pigments, c'est-à-dire des matières colorantes. Alors, au début, ils n'ont pas fait des dessins. On pense notamment à l'homme de Néandertal. Ils utilisaient le rouge et le noir. Alors, les rouges, ce sont ce qu'on appelle, nous, des oxydes de fer, c'est-à-dire de l'hématite, par exemple. Ça se trouve dans la nature. Tu peux trouver au bord d'une rivière un morceau d'hématite et si tu le passes sur ta main, ça va faire une trace rouge.
Génial.
Ou encore, pour le noir, il y a du manganèse ou de la goethite qui fait des traces jaunes. Ça se trouve très bien dans la nature. Et en fait, les hommes préhistoriques les ont trouvés. Et les ont utilisés. Alors au début, certainement pour se faire des dessins sur la peau ou des choses comme ça. Et puis un jour, alors pourquoi, comment, ça c'est très compliqué, mais ça se fait. Et c'est surtout Homo sapiens qui va le faire. Eh ben, ils ont préparé cette matière colorante. Ils en ont fait des crayons et ils sont allés faire des dessins sur les parois.
Il y a quelque chose qui me sidère en vous entendant parler, Carole Fritz, du rouge et du noir et pas de blanc, pas de craie.
Alors. Le blanc, c'est pas utilisé par les hommes préhistoriques, en fait, à une exception près. C'est une main dans la grotte de Gargas. Mais c'est une substance, en fait, qui est pas très courante dans la nature. Mais on sait que la symbolique qui accompagne ces dessins, c'est le rouge, le noir pour les pigments, puisque c'est les plus communs dans la nature, avec la goethite, le jaune. Et en fait, je vais faire une petite déviation. Le blanc grâce à la gravure. Quand vous incisez une paroi avec un silex, le trait ressort en blanc. Alors nous, aujourd'hui, on ne le voit plus blanc parce qu'il est patiné par les temps, c'est-à-dire que la poussière, la calcite qui descend dessus, mais à l'origine, il ressort en blanc. Et donc, on a, si on regarde les couleurs, et on travaille la couleur, on a du blanc, du noir et du rouge.
Bah vous êtes fort pour avoir compris que c'était comme ça.
Ah ben c'est notre interprétation pour le blanc, mais ouais. Il est évident que ils jouent sur les hommes préhistoriques quand ils dessinent, c'est du contraste et c'est du contraste visuel. Donc le blanc, le rouge, le noir, l'incision est une couleur.
Carole Fritz, chercheuse au CNRS, dirige l'équipe scientifique de la grotte Chauvet-Pont de l'Arc. Parfois dans la vie, il y a des choses que l'on ne voit pas mais qui existent, comme par exemple les étoiles dans le ciel dans la journée, ou bien des choses qui paraissent être différentes et qui pourtant sont semblables. Donc, les apparences sont trompeuses.
Bonjour, je m'appelle Théo, et j'ai 8 ans et je voudrais savoir comment l'eau fait pour se transformer en vapeur. Merci, au revoir.
Merci Théo, moi aussi je me demande. Jérôme Gaillardet, vous êtes agrégé de sciences naturelles, professeur à l'Institut de physique du Globe de Paris. Comment fait l'eau pour se transformer en vapeur?
Alors l'eau et la vapeur, c'est en fait deux formes différentes d'une même molécule, qu'on appelle H2O, l'eau des chimistes. Et la différence entre de l'eau liquide et de l'eau vapeur, c'est que entre elles, les molécules d'eau dans un liquide sont reliées par des espèces de petites chaînes que les scientifiques appellent des liaisons hydrogènes. Et ces petites chaînes font que l'eau, lorsqu'elle est liquide, a le comportement d'un liquide. Hein, c'est-à-dire que elle est capable de prendre la forme du récipient qui la contient. Les molécules sont moins libres, elles sont enchaînées que dans l'eau vapeur, où ces chaînes se sont brisées. Et pour passer de l'eau liquide à l'eau vapeur, faut briser ces chaînes, que sont les liaisons hydrogènes. Et pour faire ça, faut amener de l'énergie, tout simplement. Et sur Terre, cette énergie, c'est le soleil qui l'amène. En réchauffant l'océan, il agite les molécules et ces molécules finissent par se libérer de leurs chaînes. Elles passent de l'état liquide à l'état vapeur.
Ce que je trouve absolument génial dans ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, la différence n'est que physique entre l'eau et la vapeur.
Elle est purement physique.
Voilà. Mais chimiquement, c'est exactement la même chose.
Pour ce qui concerne la molécule d'eau, c'est la même chose.
C'est stupéfiant de penser qu'avec une apparence aussi différente, c'est quand même très très différent de la vapeur et de l'eau liquide. Il y a autant de différences qu'entre un cheval et une souris. Et ce soit finalement le même produit, non, vous dites pas produit, les scientifiques,
la même molécule.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're just a mother.
Vous aviez reconnu les Pink Floyd, énormes tubes des années 80 qu'on réécoute avec autant de plaisir 40 ans plus tard. C'est peut-être ça la définition du talent sur France Inter dans Les Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 8 ans. J'aimerais savoir si deux pays en guerre peuvent faire un match de football. Merci.
Bonjour Valentin, nous proposons ta question à l'historien Fabien Archambault.
Bah, a priori non. Quand deux pays sont en guerre, les ressortissants de ces pays-là, bah non, ils peuvent plus se rencontrer. Enfin, les relations diplomatiques sont coupées entre les pays. Néanmoins, c'est arrivé. Alors, c'est pas des matchs officiels, mais il y a plusieurs exemples dans l'histoire qui montrent qu'il y a quand même eu, des fois, quand deux pays étaient en guerre, des personnes issues de ces deux pays qui, quand même, ont pu jouer ensemble. Alors, le premier exemple, alors qu'on n'est pas sûr qu'il ait vraiment existé, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Au début de cette Première Guerre mondiale, en 1914, il y a eu une trêve le jour de Noël, donc le 25 décembre 1914. Ah, et il se dit que sur le front des Flandres, des soldats allemands qui avaient vécu en Angleterre ont commencé à discuter avec les soldats anglais qui étaient en face, en se rappelant des matchs de football qu'ils allaient voir à Londres. Et ils auraient sorti un ballon et il y aurait eu une partie improvisée entre un régiment allemand et un régiment anglais, ce jour de Noël 1914. Et on n'est pas sûr que ça existait.
Mais c'est tellement beau.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des formes de fraternisation dans ces moments autour de Noël, dans ces moments de trêve pendant tout le long de la guerre, encore plus en 1917, via finalement une légende historiographique qui s'est créée que ça aurait été un régiment saxon contre un régiment écossais, et c'est les Écossais qui auraient gagné 3-2 ce jour de Noël. Alors, il y a d'autres exemples. Alors, les pays n'étaient pas vraiment en guerre, ou ils ne l'étaient plus, mais une partie de la société du pays considérait que la guerre était encore là. C'est quand l'Allemagne a annexé l'Autriche, donc l'Allemagne nazie de Hitler en 1938, donc ce qu'on appelle l'Anschluss, quand les armées nazies envahissent l'Autriche au mois de mars 1938. Hitler veut organiser à Vienne, dans le stade du Prater, un match de football entre l'ancienne équipe d'Allemagne et l'ancienne équipe d'Autriche, qui n'est plus l'équipe d'Autriche, puisque l'Autriche est devenue l'Allemagne. Mais, en gros, les deux anciens pays vont s'affronter. Et les dignitaires nazis ont prévu le score, ce sera 0-0, pour montrer que voilà, il n'y a pas de ressentiment de part et d'autre. Et l'équipe d'Autriche était une des meilleures équipes du monde. C'est le Wunderteam dans les années 30, ouais. Et leur maître à jouer, celui qu'on appelle le Mozart du football, qui est Matthias Sindelar, considère que les Allemands sont des envahisseurs. Et donc, en gros, l'Autriche domine le match. Donc c'est
évidemment, puisque c'était les meilleurs.
C'était les meilleurs, ouais. Donc ça a lieu le 3 avril 1938 à Vienne. Hitler est là, et donc on lui a donné l'ordre qu'il y aurait 0-0. L'Autriche domine, et à chaque fois, Sindelar tire à côté. En gros, il fait exprès de rater les occasions au moment de rentrer la balle dans les buts. Et à la 70e minute, il n'y tient plus, il marque le but, vainqueur, et il va fêter son but sous la tribune d'honneur, et il s'incline devant Hitler. Il est mort, 6 mois plus tard, d'une fuite de gaz chez lui, et on considère qu'en fait, il a été assassiné par la Gestapo, pour ce but.
Après la guerre, la paix. Si votre enfant a adoré une des histoires pour s'endormir, Aurélie, et l'a déjà écoutée 102 fois, vous pouvez maintenant la retrouver en livre, édité chez Michel Lafon. Les petits bateaux sont terminés. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.fr. Marjorie Devoucoux, Eliane Girard, Noël Bréham pour les filles, Jean-Baptiste Audibert et Louis Audebert. Ce n'est pas la même chose. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. Et pour le moment, eh bien, vous avez rendez-vous avec Denis Chessot pour la Tulle Montilou.